Bonjour, vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM+. Radio FM+ est partenaire de Texte en cours, festival des écritures contemporaines pour la scène et le micro, qui s'est tenu du 15 au 18 novembre 2021 à Montpellier. Cette pièce de théâtre a été lue à la Brasserie Le Dôme et au Hangar Théâtre de l'ENSAD. Pour l'occasion, Le Fil du Fer organise une série d'émissions portant sur le métier d'auteur pour le théâtre, le parcours du texte pour le théâtre, de son écriture à sa production sur scène, et enfin sur le statut d'une autrice ou d'un auteur de théâtre en France. Les invités de ces émissions ont une pièce encore en cours d'écriture qui a été entendue durant Texte en cours 2021. Aujourd'hui, pour les faire dialoguer sur leur expérience et parcours, Le Fil du Fer et Radio FM+, reçoivent Samaël Steiner et Malou Rivoalan, tous les deux dramaturges. Dans la seconde partie de l'émission, Malou et Samaël parleront, via leur expérience propre, du statut des auteurs et autrices en France. Tout d'abord, faisons connaissance. Je poserai certaines des questions que je posais à Victor Inizan, Raphaël Gauthier, Théo Perrache et Sarah Fourage, qui étaient les invités des deux émissions précédentes. Bonjour Samaël, bonjour Malou.
Bonjour.
Bonjour Lionel.
Pour vous, c'est quoi un texte et un spectacle théâtraux complètement raté? Une pause. Peut-être Samaël.
Déjà, j'ai l'impression que c'est deux choses différentes. Un texte raté et un spectacle raté. J'ai l'impression aussi que ça dépend qui rate. Au sens où, par exemple, moi j'ai été très touché, formé par un metteur en scène qui s'appelle Mathias Langhoff, et je trouve que même quand il rate un spectacle, c'est magnifique. Alors que je considère, par exemple, que moi, quand ça m'est arrivé de rater des choses, c'était vraiment très raté. Et j'ai l'impression qu'un texte, peut-être qui rate, ça pourrait être... un texte qui, je reprends quelque chose que disait Théo, un texte qui rate, ça serait un texte qui n'a pas d'impact sur les corps peut-être, qui ne les fait pas ployer, qui ne les fait pas dévier, qui ne les fait pas aussi bien quand on cherche à le mettre en scène que quand on l'écoute ou même quand on le lit.
Sarah ?
C'est Malou.
Malou, pardon, ouais. Sarah a parlé elle tout a parlé à l'heure dans l'émission précédente.
Non, j'ai écouté ce que disait Samaël. Oui, je trouve ça très juste. Après, pour moi, le terme raté, quand je pensais à un spectacle ou un texte raté, serait pour moi un texte ou un spectacle qui a, en fait, qui a pour ambition, justement, par exemple, l'ambition ou l'ego d'un metteur en scène ou d'une auteure, et en fait, qui n'est pas dans le but de donner quelque chose, d'être généreux, mais dans un but de, voilà, d'ambition personnelle, égotique. Donc ça, pour moi, c'est raté de base. Et l'autre chose, ce serait un spectacle ou un texte qui manque de rythmique, en fait, qui a des problèmes dans la fréquence, qui est tout sur une seule note, on va dire. Voilà.
Pourriez-vous présenter votre pièce qui fait partie de la sélection de textes en cours 2021 ? La vôtre, Malou, s'intitule « La version », toutes les lettres du titre sont attachées. Samaël, la vôtre, a pour titre « K libre » et qui est écrit « K-L-I-B-R-E ». Samaël, peut-être présentez-vous ?
Alors, « K libre », c'est l'histoire d'une ville qui est traversée par un fleuve. Et c'est l'histoire de la municipalité qui voudrait enfouir une partie de ce fleuve pour gagner en espace constructible et déplacer un grand centre d'affaires qui deviendrait un très grand centre d'affaires un peu plus loin. Et du coup, parallèlement, c'est l'histoire de trois femmes qui travaillent à l'intérieur de ce grand centre d'affaires de nuit pour en faire l'inventaire et faire les rondes de nuit. Et c'est aussi parallèlement l'histoire de résistance, de tentative de résistance à cet enfouissement.
Malou ?
Alors, la version, ça parle en fait, on suit la trajectoire d'une jeune femme qui s'appelle Héloïse et qui emménage pour la première fois dans un appartement avec son copain de l'époque, Ismaël. Et en fait, on assiste un peu à huis clos. L'appartement devient en fait le lieu, le théâtre en fait de l'esprit névrosé d'Héloïse, puisqu'elle a subi en fait un traumatisme quand elle était adolescente, qui n'a jamais été énoncé, qui n'a jamais été dit au grand jour. Et en fait, on suit la trajectoire qui est une trajectoire, en fait, j'insiste un peu là-dessus, c'est une trajectoire de non-résilience. Et donc, il y a tout qui jaillit, en fait, tout ce traumatisme rejaillit de par les canalisations. Il y a la présence d'insectes qui sont là, qui sont des personnages aussi principaux qu'Héloïse. Et on, voilà, j'ai pas envie de spoiler non plus la pièce, mais on suit en tout cas la trajectoire d'Héloïse et de ses insectes et de cet inconscient agité.
Est-ce un événement dans votre vie, une rencontre amoureuse, un spectacle, un parent, un ami, un professeur de collège ou de lycée qui vous pousse à prendre la décision de devenir autrice de théâtre et pourquoi écrire pour le théâtre ? Samaël ou Malou ? Malou ?
Ouais. Je réfléchis. Alors, la rencontre, parce que moi, j'écris des petites histoires sur l'ordi depuis que je suis au primaire. J'ai pas souvenir que ce soit un professeur ou une rencontre, j'avais l'impression que c'était là, dans les cellules, quoi, depuis longtemps. Alors après, mon papa, il écrit des chansons. C'est pas son métier, mais il a toujours écrit des chansons, donc je pense qu'il y a ça. Et après, plus tard, il y a eu quand même une rencontre qui a été énorme pour moi de travail, c'est la collaboration pendant un an avec François Tanguy et le Théâtre du Radeau. Et où là, quand même, il y a un truc sur le geste d'écriture, mais qui est aussi un geste d'espace, qui a ouvert des voies quand même en moi... par rapport à l'écriture, et qui m'a un peu donné envie d'écrire plus.
Samaël ?
Alors, moi, il y a... Enfin, ça fait écho parce que, pareil, j'écris depuis que j'ai 8 ans, mais au départ, moi, j'avais pas d'ordi quand j'avais 8 ans, mais c'était des feuilles A4, c'était un peu ma mesure. J'avais la feuille A4, et puis j'écrivais, ça faisait 4-5 cm, donc ça faisait chaque lettre, donc c'était très court. Et j'ai l'impression que, en fait, je crois qu'avant d'avoir 14 ans, j'ai l'impression que ma vie a un peu commencé à 14 ans d'une certaine façon. Ma vie dans le monde, quoi, et qu'avant, c'était un peu comme un oiseau qui plane, et du coup, je passais tous mes cours dehors, c'était vraiment très très compliqué. Et la seule façon que j'ai trouvée pour m'accrocher et dire... Ok, en fait, je suis aussi là avec vous. C'était d'écrire des petites choses, des petites histoires, et qui étaient juste pour moi. Et puis après, comme j'ai trois sœurs, on a fait des petites choses ensemble, on les a mis en espace, machin. Et après, il y a eu des rencontres plus tard, comme tu parles pour François Tanguy, où comme des sortes de compagnonnage un peu, mais c'est un peu ça que j'entends aussi dans ce que tu dis, au sens où au-delà de simplement la personne et ce qu'on était en train de faire, il y a plein de choses qui ont infusé. Et il y a eu André Benedetto, il y a eu Mathias Langhoff, il y a Émilie Loiseau, et une personne qui était directrice des études à l'ENSAT, qui était Simone Amouyal, et avec qui, j'ai l'impression, même si c'était d'un tout autre ordre, parce qu'elle était directrice des études, mais il y avait vraiment ce truc de compagnonnage aussi. Et donc, c'est des rencontres qui ont été très fortes. Et puis, à la Fac d'Art du Spectacle, avec un professeur qui s'appelle Olivier Neveu, où là, il s'est passé aussi vraiment... énormément de choses, où j'ai l'impression que la fac, finalement, c'est le seul endroit où j'ai travaillé. C'était vraiment ces cours. Je faisais le strict minimum pour les autres, pour être à la surface. Et par contre, lui, il avait une heure de cours, 6 heures travaillées, quoi, pour capter des trucs, pour me tirer vers quelque chose qui n'était pas tout à fait moi, et qui est devenu aussi un peu moi, et qui, voilà.
Pour en venir donc à votre parcours et à votre formation, quel est ce parcours ? Qu'est-ce que vous avez étudié au lycée et puis ensuite après le baccalauréat pour devenir ce que vous êtes professionnellement aujourd'hui ?
J'y vais ? Oui. Alors le parcours, quand j'y étais, j'ai fait tout mon collège en fait dans des classes à horaires aménagés danse. Donc le matin il y avait école et l'après-midi conservatoire et danse contemporaine et classique. Et puis après, j'ai arrêté, je me suis blessée à la cheville. Et au lycée, j'ai fait l'option lourde théâtre. Et c'est grâce à cette option que j'ai eu le bac, puisque à l'option lourde, l'épreuve théâtre était coefficient 7. Et je ne suis pas certaine que je l'aurais eu sans ça. Donc, merci. Juste après le bac, je suis partie, un peu péter un câble. Donc, je suis partie en voyage en train jusqu'en Turquie. Ça m'a pris un peu de temps. Après, je suis rentrée. J'ai voulu faire la faculté d'art du spectacle de Rennes et ça n'a pas tenu du tout. J'ai fait une semaine et en fait, après, j'allais chanter dans des bars. Donc, voilà. Après, j'ai fait le conservatoire de Nantes en théâtre un an. le conservatoire ensuite du Mans en cycle professionnel, où là j'ai rencontré François Tanguy. Et après j'ai intégré l'école nationale de Bordeaux-Aquitaine, sous la direction de Catherine Marnasse. Et juste en sortant de l'école, après j'ai fait comédienne stagiaire à l'atelier du Théâtre National de Toulouse. Et après je voulais juste dire un truc, ce que j'ai oublié quand on parlait des auteurs. En fait, depuis la sortie du Théâtre National de Toulouse, je travaille en tant que comédienne et musicienne avec un auteur et metteur en scène qui s'appelle Frédéric Sontag. Et évidemment, qu'il a aussi hyper influé sur moi, sur l'écriture.
Samaël, votre parcours ?
Moi, j'ai fait aussi une option théâtre au lycée. Et pareil, ça m'a sauvé, quoi. C'est ça plus le TPE. Je ne sais pas si ça existe encore, le TPE, les travails personnel encadré ou travail pratique. Et c'est vraiment une sorte de carte blanche avec des thématiques croisées. Et en fait, c'est pareil, gros coef. Et du coup, j'ai eu des super notes et pour le théâtre et pour le TPE. Et ensuite, fac d'art du spectacle à Strasbourg. Parallèlement, on avait créé une compagnie un peu amateur et du coup, on a fait plein de choses autour. Et après, c'est le moment où je me suis dit, j'étais quand même beaucoup dans l'imagination et beaucoup, j'avais l'impression que je peinais à habiter mon corps jusqu'en bas, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut, j'avais envie d'apprendre un métier qui implique mon corps. Et du coup, j'ai présenté l'ENSAT en lumière. Pas simplement pour habiter mon corps, mais parce que j'ai un vrai amour aussi de la lumière et de la scénographie et de cet endroit de théâtre. Et donc, j'ai fait 3 ans à Lyon, au département Lumière, et voilà.
Avez-vous d'autres activités dans le monde professionnel, et quelles sont-elles ? Et aussi, est-ce que ces activités influencent votre écriture ? Samaël ?
Eh bien oui, donc moi, j'ai l'activité d'éclairagiste, donc qui consiste à faire de la lumière, en ce qui me concerne, principalement pour le spectacle vivant. Et donc, c'est sur des temps donnés où on réfléchit la lumière avec les équipes. Et une pratique également qui est connexe à celle d'écrire, mais qui est atelier d'écriture, que je mène beaucoup d'ateliers d'écriture. Et ces deux choses-là me nourrissent, enfin s'internourrissent en fait avec l'écriture, et notamment l'écriture et la lumière, ça se nourrit en permanence. Et j'ajouterais peut-être juste une chose qui est peut-être un tout petit détour, mais comme on parle aussi d'activité dans le monde professionnel, je suis aussi syndiqué et j'ai cet investissement-là et qui me nourrit aussi beaucoup de choses aussi très très concrètes, quoi.
Et Malou, j'ai entendu que vous étiez comédienne musicienne. Pardon, je ne spoil pas ni ne divulgage, vous l'aviez dit.
Ah bon ?
Oui,
ah oui, je l'ai dit, ouais, j'ai oublié. Non, je rebondis parce que là, Samaël a utilisé le terme « nourrir ». Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant la question quand on me dit « c'est quoi mon métier ?» Bah, je réponds en fait « grâce à quoi je me nourris ?» Et donc effectivement, je me nourris grâce à des cachets de comédienne et de musicienne. Et depuis 3-4 ans, en fait, je fais aussi beaucoup de pédagogie. Donc, je fais aussi des ateliers d'écriture, des ateliers de jeu. Et je travaille depuis 2 ans avec une compagnie implantée dans l'Essonne rurale qui fait vraiment du théâtre, en fait, où j'ai un petit spectacle que je joue uniquement dans des lycées et des collèges, lycées techniques et SECPA. Et ça nourrit énormément, en fait. Ça me nourrit vachement parce que entre les pièces que je joue avec Frédéric Sontag dans des gros CDN et des grosses structures et aller dans les lycées de SECPA, de l'Essonne rurale, c'est un grand écart énorme et qui du coup me donne à manger, mais de manière concrète aussi un peu philosophique en fait.
Et c'est le temps de la pause musicale. Nous écoutons un extrait de la BO du film Love, Simon, composé par Rob Simonsen, et c'est Simon & Blue. Et vous êtes sur Radio FM Plus 91 FM. Samaël Steiner et Malou Rivoallan sont deux autrices de théâtre micro du Fil du Fer, abordant maintenant le sujet du statut des dramaturges en France. Je me permets de vous laisser discuter ensemble de cette question, Malou et Samaël. Quelle place en tant qu'autrice pensez-vous avoir dans la société ? Ouh là là, que c'est énorme comme question. Et pourquoi pas dans votre famille ? Vous sentez-vous considérée ? Samaël ou Malou ? Ah, Malou avait commencé.
J'allais dire à Samaël que hier soir, au Hangar Théâtre de Texte en Cours, j'ai reçu donc un chèque de Texte en Cours pour ce texte. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc sur la question de l'auteur, je vais peut-être plutôt te laisser parler, puisque pour moi, c'est tout nouveau et j'ai ce chèque et je sais même pas si je vais l'encaisser, je vais peut-être l'encadrer. Parce que enfin, si je vais l'encaisser, mais voilà, c'est nouveau.
Ben, moi, je dirais sur le fait d'être considéré, je trouve que ça, c'est drôle parce que la question, elle est différente en fonction des cercles. Par exemple, dans les ateliers d'écriture, en ce moment, j'écris, enfin, c'est pas moi qui écris du coup, mais j'anime des ateliers dans un collège, dans un lycée, pardon, à Voiron, à côté de Grenoble. Et en fait, une des premières choses, c'est quand on dit que c'est notre métier, c'est mais ça gagne. Et c'est vraiment, et c'est souvent le cas quand c'est dans des ateliers, j'ai souvent cette chose-là. Et après, le rapport à la famille, moi mes deux parents sont dans deux classes sociales différentes et selon la classe sociale, la considération est très différente. Donc après, j'imagine que c'est plus au général aussi. Et la dernière chose qui me vient, c'est que je vois une vraie différence de considération selon dans un projet que je viens, que je suis en fait éclairagiste ou autrice en fait. Et en fait, la personne qui est éclairagiste, en fait, on ne lui parle pas. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit dans la régie, quand bien même la régie n'est pas habitable, enfin, n'est pas un endroit de vie, mais voilà, dans les imaginaires. Et par exemple, dans cet endroit mondain qui est un pot de première, on ne parle pas à l'éclairagiste. Alors, et dès lors qu'on sait que l'éclairagiste écrit, alors là, tout d'un coup, quelque chose s'ouvre et quelque chose est possible. Et moi, j'ai vraiment vécu cette histoire de considération à cet endroit-là. Et j'ai l'impression presque, et notamment quand il y a eu des publications, d'avoir vécu quelque chose comme un transfuge de classe. Tout d'un coup, de passer de l'éclairage qui est considéré comme une chose technique et une chose basse. Pour les auditrices, auditeurs, je mets des guillemets, c'est pas ma pensée, mais c'est souvent un peu considéré comme ça. Et enfin, au sens bassement technique. Et tout d'un coup, le fait d'écrire, le fait. Et du coup, la considération s'est déplacée.
À partir de quel moment peut-on dire qu'écrire est un métier à part entière ? Est-ce à partir du moment où vous êtes payé pour une commande ou par texte en cours, Malou ? Est-ce à partir du moment où vous recevez des droits d'auteur, Malou ?
En fait, là, du coup, quand vous parliez, Lionel, j'étais en train de me dire que ce n'est pas tant la question du fric que la question du travail, en fait. C'est vraiment ce que j'étais en train de me dire, en fait, qu'il y ait chèque ou pas chèque, c'est à partir du moment où on bosse, et ben c'est un métier, en fait. À partir du moment où on se lève, où on retravaille, et travaille, où on y pense, où on met ce grain d'énergie, en fait, dans la matière du monde, et ben c'est du travail.
Une réponse, Samaël ?
Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. Je pense que la question de la reconnaissance sociale et du coup par l'argent dans le monde dans lequel on vit compte, mais je suis d'accord que pour soi, c'est très important cette chose-là aussi, parce qu'il y a un imaginaire de comment on appelle ça, d'inspiration, qui remonte de très loin. Et en fait, à partir du moment où on capte pour soi que c'est du travail, ben c'est un métier, quoi.
Justement, parlons du monde du travail dans les arts vivants. Les auditrices et auditeurs ne savent peut-être pas ce qu'est le statut d'auteur ni ce qu'est le statut d'intermittent-intermittente pour les artistes et techniciens. Pourriez-vous éclairer nos lanternes, puisqu'on est avec un éclairagiste, à ces sujets, à ces sujets, en évoquant votre expérience d'autrice et d'intermittente du spectacle. On entend parfois que les gens du spectacle sont des personnes privilégiées qui ont la chance de vivre de leur passion. Malou, Samaël, je regarde dans les yeux. Oh, Malou, vous avez quelque chose à dire?
J'ai un truc, non, c'est sur la question des gens privilégiés. Du coup, alors, moi, j'ai pas du tout le statut d'autrice. Donc, je suis intermittente depuis 5 ans. Et en fait, il y a quelque chose qui me fait assez rigoler. C'est à l'époque où j'étais à l'école de théâtre, il y avait un truc un peu du discours de l'artiste qui est en fuite ou privilégié par rapport au temps, dans un rapport au temps un peu comme ça, élagué, il plane un peu l'artiste au-dessus du temps. Et quand je suis arrivée dans le concret de la situation, de courir après des heures, hein, c'est très concret, parce que donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est l'intermittence, il faut en gros débloquer, il faut faire sur une période de 12 mois 507 heures. Donc un cachet, c'est 12 heures, et il y a des services de répétition de 4 heures ou 8 heures. Et donc, quand je sortais de ces trucs de conférence où on boit du vin et puis on parle du temps dilaté, et là, d'un coup, je sors de l'école et il fallait que je cours après des heures et je faisais des calculs sur mon téléphone portable de 12 plus 8 plus 4. Et ça m'a fait assez rigoler, en fait, enfin, voilà, je me suis dit, ce rapport au temps fractionné en heures et en cachet était en fait super, assez anxiogène, en fait, finalement. Et des fois, des moments d'avoir l'impression de courir un peu après des heures, ce qui, enfin, même en physique quantique, c'est un peu fou ce truc. Voilà.
Samaël,
je crois que j'aurais rien de
plus à dire.
Rien de mieux à dire. Ouais.
Si cela vous convient, je vais vous laisser discuter ensemble, Samaël et Malou, à propos de votre routine de travail, de la manière dont vous pratiquez l'écriture d'une pièce de théâtre. Peut-être pour les auditeurs et auditrices du Fil du Fer, ce que vous êtes et faites professionnellement est un grand mystère. En général, les gens voient le résultat, le spectacle sur scène, mais avant, quand vous vous trouvez seul face à la feuille ou l'écran d'ordinateur, que se passe-t-il? C'est le journal de Mickey, c'est la Netflix, et puis vous bossez, vous attendez que l'inspiration arrive, ça mêle.
Moi, je suis tout le temps très intéressé de savoir justement les cadres de travail des personnes, au sens où moi, j'ai l'impression que je pourrais travailler à peu près n'importe où, mais en discutant avec d'autres autrices, auteurs, c'est pas forcément le cas. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment des choses spécifiques importantes, que ça soit le lieu, que ça soit un gris-gris, que ça soit un outil, que ça soit qui t'aide et qui te porte, quoi?
En fait, c'est vraiment pour le... Bah, moi, c'est la page Word. Donc, je pourrais travailler n'importe où, mais c'est le traitement de texte. Et là, on le disait hier au workshop, c'est vraiment... À partir du moment où j'ai trouvé la police, la bonne police et la bonne taille de police, et bah, c'est parti, quoi. Mais ça peut être n'importe où.
Et ça veut dire que selon les textes, c'est pas forcément la même police et même taille.
Ah oui. Et je donnais hier l'anecdote pour je voulais envoyer le texte à un comité de lecture, il fallait passer le texte en Arial 12. Et bah, du coup, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Et toi, du coup, tu fais quoi? Tu te lèves à 7h?
Eh ben, c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai un ami qui écrit vraiment tous les matins. Et du coup, j'ai essayé de se lever vraiment tôt, d'écrire. Et en fait, j'ai trouvé ça super, au sens où j'étais un peu bouffé par les tâches domestiques. Et en fait, je me retrouvais à la fin de la journée à avoir un quart d'heure. J'ai deux filles et du coup, j'ai beaucoup de travail domestique. Et que ça soit donc les amener à l'école, à la crèche, ensuite préparer le repas du soir que je prépare le matin pour avoir du temps pour moi. Après, il faut toujours ranger parce qu'elles jouent beaucoup. Elles sont 2 et 6 ans. Il y a des lessives, etc. Et en fait, je me retrouvais dans une journée où je voyais la journée devant moi et j'avais une sorte d'ivresse de temps où je me disais, bon, là, tu as 5 heures, 6 heures pour toi. Et en fait, finalement, je n'avais qu'un quart d'heure parce que j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire. Et ben, quand on a des enfants, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et du coup, là, j'ai inversé. Je me suis dit, OK, prends une heure et demie, deux heures. Je me suis dit qu'en dessous d'une heure et demie, c'était pas du travail. C'était une aptitude à remplir quelque chose. Enfin, c'est pas une vérité générale, c'est vraiment pour moi. En dessous d'une heure et demie, j'avais l'impression que ma propre capacité à faire des choses pouvait tourner en roue libre, mais c'était pas, ça me mettait pas face à des nœuds, à des choses à creuser. Donc une heure et demie, deux heures. Et après, il y avait toutes les choses domestiques à faire. Mais du coup, je les faisais aussi habiter par toutes les choses que j'avais mis en mouvement. Et donc ça m'a vraiment aidé, ce truc du matin. Parce que toi, t'es plutôt...
Non, c'est que je réfléchis. Je trouve ça énorme, ce que tu dis sur ce côté « on est encore à courir après les heures ». Mais en fait, ça me fait penser à... Pendant assez longtemps, j'étais vachement dans le truc de l'inspiration, moi. Donc j'adorais me droguer, boire, écrire, en attendant un espèce de truc supérieur et tout. Et là, ça fait que depuis quelques années que j'ai radicalement changé mon fusil d'épaule. Parce qu'en fait, ça me faisait vachement souffrir, cette histoire de l'inspiration. Et même ma santé, enfin vraiment quoi, le sommeil, j'en souffrais. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis passée de l'inspiration à cette conception d'artisanat et de travail. Et quand tu disais je me ménage des temps, et je trouve ça finalement assez beau, la poésie qui naît voilà, il y a la lessive à 13h30 et il y a ce temps d'écriture, et finalement ça redescend aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus humble en fait dans cette pratique de passer de l'inspiration à l'artisanat, au travail donc voilà, donc ce que tu dis me parle beaucoup. Et après, je fais vachement d'aquarelle, moi, en fait. J'ai un atelier de peinture chez moi. Et du coup, donc je peins comme ça. Voilà, donc je suis là en train de peindre. Et comme c'est des aquarelles, bah, ça, c'est pas de l'acrylique. Donc, il y a des trucs qui jaillissent dans l'eau. Et c'est toujours dans ces moments-là que je fais oh, hop, et j'arrête. Et je dis, ah oui, scène 3, acte 2, c'est ça. Boum, boum. Enfin, ça fait ça, quoi.
J'imagine que le métier d'écrire apporte son lot de stress et de joie au pluriel, J-O-I-E-S. Quelles sont vos joies et à quoi est dû votre stress si votre métier d'écrire vous le fait ressentir ? Samaël ?
Alors, je vais commencer par le stress. Bah, le stress, c'est quand, par exemple, on a terminé un texte ou... comme là, dans le cadre de texte en cours, qui n'est pas terminé, mais qui l'est quand même livré, quelque part, et qu'on se retrouve dans la situation d'entendre ce que d'autres personnes en ont fait, et d'avoir des retours dessus. Et du coup, il y a toujours ce petit stress, pour ma part, le fameux syndrome d'imposture, quoi, l'impression de se dire, bon, bah, en fait, finalement, je suis là, mais est-ce que... Donc ça, c'est pour le stress. Et je crois que c'est vraiment le seul endroit de stress pour l'écriture. Il y en a d'autres dans d'autres parties de ma vie, mais pour l'écriture, c'est vraiment celui-ci. Pareil, quand on le livre, qu'il est terminé, qu'on le livre à une équipe qui va travailler, par exemple, dans le cadre d'une commande ou tout ça, il peut y avoir un très, très grand stress avec l'envie de devenir microscopique et de disparaître. Et les joies, il y en a plein quand même, heureusement. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce dont tu parles avec l'aquarelle pour moi. C'est-à-dire, tout d'un coup, quand il y a un truc qui se débloque et qu'on a l'impression que la tête, elle pète parce qu'il y a un truc qui s'est débloqué qu'on n'aurait jamais imaginé. Et ça, je pense que c'est pour moi, enfin, vraiment un truc de joie qui se ressent physiquement. D'un coup, je sais pas, ça tremble, ça bouge.
Et vous, Malou, pour les 2 minutes qui nous restent ?
Je vais faire un... Alors, bah, en fait, en écoutant Samaël, je me suis rendu compte que le stress et joie, c'était la même chose, en fait, pour moi, dans l'écriture. Et du coup, je vais reprendre ce truc par rapport à la peinture. Dans le stress, c'est un peu la peur c'est comme quand on fait un tableau et on sait pas où on va. Et des fois, le gros stress pour moi, c'est de défigurer, en fait, le truc que je suis en train d'écrire. Donc, c'est-à-dire de se dire, ah, tiens, bah, là, je vais dessiner un œil. Et en fait, le truc, bah, ça défigure complètement tout le dessin. Et puis, le désamour aussi de ce que je suis en train d'écrire. De relire et de dire, j'aime pas. Et en même temps, la joie de ça, c'est vraiment pareil avec la peinture. C'est la joie de se dire, il y a la peur de défigurer. Et en même temps, bah, je voulais dessiner un œil, mais en fait, cet œil, ça devient un chat. Et bah, c'est génial, quoi. Et on se laisse surprendre. Et de là, bah, on continue à aimer son petit bébé, quoi.
Oh, j'aime bien, c'est les petits bébés. Ça bouge, c'est mignon, ça fait des sourires. Ainsi se termine la série de 4 fils du fer dédiés au théâtre. Vous avez pu entendre dans les émissions précédentes Bruno Paterno, Victor Inizan, Raphaël Gauthier, Sarah Fourage, Théo Perrache. Vous venez d'écouter celle consacrée à Samaël Steiner et Malou Rivo-Allan, autrice sélectionnée pour la dernière édition en date de Texte en cours, Festival des écritures contemporaines pour la scène et le micro. Radio FM+, pas Ratio FM+, Radio FM+, on est partenaire, à bientôt. There's some...